Bonjour et bienvenue dans votre magazine Ma France, par ici les économies. Notre objectif chaque semaine, vous redonner du pouvoir d'achat. Alors aujourd'hui, on va faire le point sur nos frais bancaires en profitant des principales astuces pour faire des économies. On va tout vous dire avec notre invitée. Bonjour Sandrine Perrois.
Bonjour.
Vous êtes juriste pour l'association CLCV, Consommation, Logement et Cadre de Vie. Et vous allez répondre à une première question d'un auditeur.
Bonjour, Julien, 35 ans. J'habite dans les Yvelines et je suis consultant en informatique. Je vous appelle parce que j'aurais aimé savoir comment réduire ses frais bancaires et au moins comment trouver le total des frais bancaires que je paye par an. Dans ma banque, je paye, je crois, plus de 22 euros par mois rien que pour ma carte. C'est beaucoup. Et j'aurais aimé savoir où trouver une synthèse de l'ensemble des frais bancaires. Je vous remercie. Au revoir.
Ben merci à vous, Julien. Alors, pour savoir comment faire baisser les frais bancaires, ça, on va le dire pendant les 20 prochaines minutes. Par contre, où trouver les tarifs bancaires? Ça, c'est vraiment une question qu'on se pose.
Alors, le premier réflexe, c'est de consulter la brochure tarifaire hein, qui est remise aux clients, qui est disponible sur le site internet et qui est disponible également en agence. Vous recevez des relevés de compte mensuels aussi qui vous donnent une indication sur vos frais. Et une fois par an, en janvier, vous recevez un relevé annuel des frais que vous avez eu pour l'année.
Bon, mais on a tout ça, mais c'est pas toujours très compréhensible. On va y revenir justement. Et Sandrine Perrois, moi, je me souviens, il y a quelques semaines, justement, en préparant l'émission, j'ai appelé mon conseiller bancaire et je lui ai dit, voilà, qu'est-ce que je paye, pourquoi je paye. Et lui-même, il a mis un sacré temps pour trouver, il avait un peu du mal. Donc j'imagine bien que nous, côté consommateur, c'est pas évident. Mais vous allez nous éclairer. Alors, on paye en moyenne 228 euros par an pour les services bancaires. Les tarifs augmentent chaque année, mais raisonnablement, c'est ça?
Alors, lors de notre dernière enquête qui portait sur les tarifs au 1er février 2025, on a constaté des augmentations entre 3 et 5% selon les profils de consommateurs. Donc, les principales causes, c'était une hausse des frais de tenue de compte, des cartes bancaires, et puis l'abaissement de la franchise des retraits gratuits quand vous faites des retraits aux distributeurs de la concurrence.
Donc, ça veut dire que lorsqu'on retire dans notre banque, là, il n'y a pas de problème, c'est gratuit. Mais selon les banques, quand on va retirer ailleurs, au bout de 2, 3, 4 retraits, on paye.
Exactement. Il faut vérifier dans sa brochure tarifaire. Tout dépend aussi de la carte que vous avez. Ce n'est pas les mêmes règles en fonction du type de carte que vous avez. Et les règles sont différentes d'un établissement à un autre. Donc, il faut apprendre sa brochure tarifaire par cœur, en fait.
Et donc, si j'ai bien compris, les tarifs ne sont pas les mêmes d'une banque à l'autre?
Non, exactement. Ils ne sont pas les mêmes d'une banque à l'autre. Les tarifs sont libres, à quelques exceptions près, notamment pour les frais d'incident et les frais de succession. Et donc, il y a de véritables disparités entre les établissements et des politiques tarifaires qui sont très différentes d'un établissement à un autre.
Bon, mais j'imagine quand même que le jeu de la concurrence fait que on n'est pas de 1 à 10 quand même sur les tarifs. Tout ça se tient à peu près.
Alors, il y a quand même de réelles différences. Et nous, on voit sur les paniers, sur notre enquête, le même panier peut aller du simple au double parfois. Donc, ça vaut le coup quand même de comparer.
Ok. Alors, justement, pour comparer, moi, j'ai trouvé le comparateur de frais bancaires du gouvernement. Hein. C'est tarif-bancaire.gouv.fr, tout ça au pluriel. C'est un outil qui peut nous aider.
Alors, c'est un outil, comme nos enquêtes, qui est utile, effectivement, pour les consommateurs. Au demeurant, le conseil, c'est vraiment de lister ses besoins. Quelle carte? Quelles opérations? Est-ce qu'on voyage à l'étranger ou non? Et à partir de là, de comparer les brochures.
Oui, c'est ça. Donc, il faut remettre quand même le nez dedans. Quoi
exactement.
Ce qui est important aussi dans les comparateurs, et vous qui êtes juriste pour l'association CLCV, je pense que vous ne me direz pas le contraire, c'est l'indépendance quand même des comparateurs. Moi, c'est pour ça souvent que quand il y en a un qui vient de l'État, j'ai plutôt tendance à en parler, ou d'une association de consommateurs, l'UFC ou autre, plutôt que des comparateurs plus commerciaux.
Oui, ça, on est d'accord avec vous. Effectivement, l'important pour les comparateurs, c'est de vérifier qu'ils sont indépendants, qu'ils ont un panel assez large, qu'ils regardent tous les établissements par exemple. Mais l'indépendance est un des critères effectivement qui est très important.
Vous avez dit une chose qui est intéressante, il faut voir quels sont nos besoins. On oublie parfois ça, on va dans une banque, bon, on nous propose des packs, des services, puis on se dit bah oui, pourquoi pas, on fait un peu nos courses, sauf qu'à la fin, la facture elle tombe, et à l'année ça fait beaucoup. C'est important de partir du besoin.
C'est important de partir, de vraiment lister les opérations et de lister par exemple le niveau de carte que l'on souhaite en fait, et de comparer. Il faut comparer entre établissements, il faut aussi comparer au sein de son établissement. Les banques proposent des mini-forfaits, des packages en fait. Et il faut voir, est-ce qu'on a plutôt intérêt, à partir justement de ses besoins, de souscrire à l'unité chaque opération, ou est-ce que le package est intéressant financièrement? Et ça n'est pas toujours le cas.
Quand on regarde ce qui nous est facturé ligne par ligne, c'est une chose et on va y revenir, mais on a effectivement souvent ces propositions de pack avec un montant mensuel forfaitaire. Finalement, ce que vous nous dites, c'est que un package, c'est pas forcément faire des économies. On n'a pas un prix de gros.
Non, c'est pas forcément faire des économies. Tout dépend de l'usage que vous faites de votre banque, en fait. Il y a différents packages qui sont proposés eux-mêmes au sein de l'établissement. Et alors, ça demande un peu de travail, mais ça vaut le coup, effectivement, de regarder est-ce qu'il ne faut pas souscrire à l'unité chaque produit qu'on utilise vraiment.
Eh oui.
Ou alors opter pour le package parce que là, effectivement, on y gagne financièrement.
Ce que je comprends, c'est que finalement, là, le temps, c'est de l'argent. C'est-à-dire, il faut prendre le temps de bien regarder à la fois ce dont on a besoin et ce qu'on nous propose, hein,
exactement,
en tant que consommateur, quoi.
Exactement, parce que quand on demande aux consommateurs ce qu'ils payent comme frais, souvent, ils ne sont pas en capacité de nous répondre, en fait. Mais ça vaut le coup, effectivement, de jeter un œil. Et c'est l'objet de nos enquêtes, d'ailleurs, d'attirer l'attention du consommateur sur le fait qu'ils peuvent faire des économies.
Mais alors, est-ce qu'on peut changer de forfait comme ça ou une souscription à un service comme ça dans une banque? Il n'y a pas des histoires d'engagement. On est libre, nous aussi, de bouger les prestations qu'on a souscrites.
Alors, il faut regarder dans la convention de compte. C'est le contrat qui vous lie, en fait, à votre banque. Mais en règle générale, effectivement, vous pouvez changer de service au sein de l'établissement.
Si vous en êtes d'accord, Sandrine Perrois, juriste pour l'association CLCV, moi j'aimerais bien qu'on reliste un peu les principaux services qu'une banque nous facture, puis qu'on distingue les frais à la fois encadrés par la loi et les frais libres. Donc les frais encadrés par la loi, j'ai compris, il n'y en a pas beaucoup. Enfin voilà, qu'on refasse un peu le point sur tout ça.
Alors les frais courants, effectivement, qui sont facturés, donc quasiment toutes les banques facturent des frais de tenue de compte, les cartes bancaires. On l'a dit, effectivement, les retraits aux distributeurs de la concurrence peuvent être facturés au-delà d'une franchise de retrait gratuit. Et puis vous avez les opérations en agence, généralement, comme si vous faites un virement en fait en agence qui sont facturés, et puis des opérations qui sont moins courantes, un chèque de banque, etc. Mais c'est une liste qui n'est effectivement pas exhaustive, et il faut vraiment se rapprocher et regarder sa brochure.
Pour ce qui est encadré par la loi, donc vous en avez cité deux tout à l'heure, c'est ça? Il y a vraiment deux opérations en particulier, le prix est pareil pour tout le monde?
Alors les frais d'incident, en fait, certains frais d'incident qui sont encadrés par
la loi. Ça c'est quoi quand on dépasse un découvert autorisé?
Donc, un rejet de chèque, un rejet de prélèvement, les commissions d'intervention, les saisies administratives à tiers détenteurs, c'est un peu technique, mais effectivement c'est le cas. Il y a des plafonnements qui sont prévus pour les offres clientèles fragiles, mais je pense qu'on va y revenir. Et puis vous avez d'autres frais qui sont encadrés, notamment les frais de tenue de compte inactifs, le virement instantané et les frais de succession.
D'accord. Concernant ces frais, on peut aussi s'autoriser à faire une petite négociation. Enfin, moi, ça m'est arrivé de voir une période un peu difficile quand j'étais étudiant, puis de dire à la banquière, écoutez, là, franchement, vous avez vu, j'ai pris 300 euros de frais ce mois-ci, je m'en sortirai jamais. Et là, elle m'avait dit, bon, écoutez, sur ça et ça, je peux faire quelque chose. On peut oser?
Alors, on peut oser, mais comme son terme l'indique, c'est une négociation. Donc, la banque n'est pas obligée d'accepter. Elle est obligée d'informer sur les frais qu'elle pratique, mais elle n'est pas obligée d'accepter une négociation. Mais on peut tenter, effectivement.
Sandrine Perrois, on est des consommateurs quand même, donc les banques ont un intérêt malgré tout à nous garder. Hein. Chaque client, on le sait, reste très longtemps dans une banque, c'est un enjeu majeur. Les enfants aussi, quand ils rentrent dans la même banque, souvent ils y restent aussi très longtemps. Donc on peut négocier avec aussi cette idée en tête que le banquier est quand même un prestataire.
Ah, c'est un prestataire, effectivement.
Voilà.
Il, comme vous le dites, il a intérêt à avoir des clients. Donc, on peut négocier. Mais bon, voilà. Juridiquement, il n'est pas obligé d'accepter, effectivement. Et tout dépend de la politique commerciale qu'il a, en fait.
Moi, en tout cas, ce que je conseille, c'est d'essayer, bien sûr, avec courtoisie, esprit constructif. Mais un banquier, il est aussi là pour faire une relation clientèle. Et comme vous le dites, ça coûte rien, hein, de toute façon.
Exactement.
De tenter notre chance. Est-ce qu'il y a des petits frais qu'on ne suspecte pas? Vous avez parlé tout à l'heure de retirer dans un réseau différent d'une autre. Est-ce qu'il y en a d'autres sur lesquels il faut être vigilant?
Alors, il faut regarder un petit peu tout, mais c'est vrai qu'on a des opérations qu'on ne fait pas souvent. Donc, on regarde pas forcément sa brochure ou on n'est pas informé des tarifs. Je pense à un cas notamment pour les gens qui voyagent à l'étranger hors zone euro.
Ah oui.
De regarder avant, effectivement, de partir à l'étranger, quels sont les frais qui seront appliqués pour les paiements ou pour les retraits aux distributeurs. Et puis voir si la banque propose un forfait spécifique, en fait, pour le voyage, ou éventuellement voir ce qui est proposé par la concurrence, puisqu'on sait qu'il y a d'autres banques, effectivement, qui ne facturent pas ce type de frais. Donc, ça vaut le coup, effectivement, là aussi, de comparer, en fait.
Absolument. Il faut faire attention, en effet, quand on voyage, vous avez dit hors zone euro, parce qu'en zone euro, c'est bon, ça, c'est pareil pour tout le monde.
En zone euro, c'est la même chose que si vous refaites les opérations en France, en fait.
Ah, c'est bon à savoir, ça.
Voilà.
Ok, pas mal. Concernant ces frais bancaires, pour faire baisser la facture, finalement, donc vous nous avez dit, on regarde les options de la carte bancaire. Est-ce qu'on a le bon niveau de carte, en fait?
Exactement.
Ok. Les tarifs en ligne et en agence pour les prestations, parce que c'est pas forcément les mêmes prix.
Oui, c'est généralement gratuit si vous faites vos opérations tout seul en ligne et c'est payant quand vous le faites en agence.
Voilà, donc ça c'est bon à savoir. On évite les frais d'incident, vous l'avez dit aussi.
Exactement, si possible.
Bon, et on peut aussi alors négocier, je disais tout à l'heure, mais aussi se faire aider par le conseiller de sa banque, lui demander des conseils en disant ben moi j'aimerais savoir ce que je paye, comment je peux payer moins.
Ah, il est là pour ça, effectivement. Donc il peut conseiller et puis pour les personnes qui ont des difficultés financières, ça vaut le coup aussi de voir effectivement les offres spécifiques.
Et si on se rend compte que notre banque en fait elle est hyper cher par rapport aux autres, on peut changer, bien sûr. On se dit souvent, voilà, si j'ai un prêt immobilier, un truc, comment je vais faire ? Ça paraît mission impossible.
Alors, on peut changer. Il y a un service d'aide à la mobilité bancaire qui a été mis en place. Donc, c'est la nouvelle banque qui fait les démarches, en fait, pour les opérations de transfert, des opérations récurrentes, les prélèvements, les virements, etc. C'est moins aisé si, effectivement, on a un crédit immobilier en cours ou si on a des produits d'épargne, par exemple. Sur le crédit immobilier, il faut regarder dans son contrat. La législation a évolué, mais certaines personnes peuvent être tenues par des clauses de domiciliation de revenus. Et pour les produits d'épargne, c'est un peu plus compliqué car certains sont pas transférables, donc il faut fermer et rouvrir. Mmh. Certains sont transférables, mais dans certaines conditions avec des frais. Donc voilà, mais en tout cas, c'est possible.
De banque, voilà. Et on peut laisser un prêt en cours sur la banque, sur un compte sec, et puis on bascule ailleurs.
En
c'est
tout
possible.
Cas, il y a des choses qui sont envisageables.
Allez, on va retrouver Hélène qui nous appelle depuis la Moselle. Bonjour Hélène.
Bonjour.
Bienvenue sur votre radio locale ici. Alors, vous payez beaucoup de frais bancaires, vous ?
J'en paye pas mal. En plus, j'écoutais là les retraits dans ouais. les autres banques. Ça, c'est quelque chose qui m'insupporte au possible. Des frais. En fait, ce qui m'insupporte, c'est les frais sur des mouvements purement informatiques.
Eh ouais, mais bon, c'est que les banques, elles veulent faire des sous, hein, concrètement. Mais je vois que Sandrine opine du chef. Ouais, c'est comme ça. En fait, eux, ça leur coûte rien. Ils font de la marge sur nous. Mais bon,
ah bah, c'est un oui, service. Oui. Des fois, c'est une lettre qui est envoyée. C'est des lettres type, mais voilà, ce qui peuvent être facturées. Voilà, notamment sur des lettres pour compte débiteur. On voit des différences de tarifs entre les établissements, mais ça peut être, des sommes qui ne reflètent pas, pour nous, le coût économique, en fait.
Bon, Hélène, j'imagine que vous aimeriez que ça baisse. Est-ce que Sandrine peut vous aider?
Alors, moi, j'aimerais bien que ça baisse, d'autant que je viens de faire un emprunt immobilier.
Ok.
Donc, je me retrouve avec deux banques, puisque je n'ai pas pu l'obtenir. Enfin, il y a eu des petits soucis administratifs dans ma banque, et du coup, j'étais pressée, et j'ai signé dans une autre banque. J'ai gardé mes revenus dans ma banque. j'ai tout un panel là et je me retrouve avec cette histoire justement de compte sec sur lequel mon emprunt immobilier est prélevé et avec les virements qui doivent basculer d'un côté de l'autre.
Bon, donc de compte, c'est un peu le pataquès. Sandrine, qu'est-ce que vous pouvez conseiller à Hélène là?
Là, c'est pareil en fait. Il faut partir des besoins, voir s'il y a vraiment nécessité de garder deux comptes. Est-ce qu'on peut changer de banque? Et puis tous les conseils qu'on a donnés auparavant, effectivement, sur les retraits, sur les cartes, tout un tas de choses. Vraiment, il faut comparer et voir ce qui est le mieux en fait pour fonctionner.
Il va falloir vous engager encore un tout petit peu, mais en tout cas, Hélène, n'hésitez pas à en parler aussi avec votre conseiller bancaire, là où il vous reste que l'emprunt, par exemple, lui demander vraiment que vous ayez un compte qui coûte le minimum vital. Ça peut être déjà un départ. Et ensuite, vous basculez tout sur l'autre. Et là, vous réoptimisez, quoi. Mais ça va vous demander un peu de temps, je crois.
Je pense, oui.
Voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Hélène, pour votre participation. Et puis, j'en profite, si vous aussi, vous voulez participer, j'ai un mail, c'est parici@radiofrance.com. Un petit rappel, vous le savez, votre radio locale ici s'engage, comme chaque année, pour le Téléthon. Vos promesses de dons, c'est sur le 36-37. C'est un enjeu hyper important pour financer la recherche sur ces traitements de maladies génétiques et de maladies rares.
Ici, avec Valère Coréard,
par ici les économies.
En version magazine, le samedi, le thème aujourd'hui, comment optimiser nos frais bancaires. Sandrine Perrois, juriste pour l'association CLCV, est avec nous. Et Iban Caricano, porte-parole de l'ESCO, nous rejoint. Bonjour Iban.
Bonjour.
L'ESCO, c'est une monnaie locale basque, la première d'Europe, dites donc. Merci d'être avec nous. Qu'est-ce que c'est une monnaie locale?
En fait, c'est une monnaie locale complémentaire, donc qui s'utilise en complément à l'euro. Elle circule sur un territoire limité. Là, en l'occurrence, l'ESCO circule sur les 158 communes de la communauté d'agglomération Pays Basque, donc le Pays Basque Nord.
Ouais.
Et c'est ça qui fait la particularité de cette monnaie, c'est d'être limitée géographiquement. Donc, quand on dépense un euro sous la forme d'un ESCO, il va circuler uniquement sur le territoire.
Non, mais vous faites bien déjà, Iban, vous dites EOSCO, donc on va déjà le prononcer correctement. Ça, c'est la moindre. Non, mais vous avez raison, c'est essentiel. Une radio locale, c'est prononcer les monnaies locales. Une monnaie locale, elle n'est pas dans une banque, alors on est hors système là.
C'est un système parallèle des banques. Mmh. En fait, c'est des gestions de comptes numériques qui ne sont pas reliées directement à une banque. Après, nous, on est encadré par une loi, la loi sur l'économie sociale et solidaire. Mmh. Et les euros qu'on reçoit contre lesquels on donne des EOSCO, ceux-là, ils sont placés dans une banque. Ils n'entrent pas dans un trésor, ils sont dans des banques éthiques et qui financent des projets à plus-value sociale et environnementale.
Donc, on a une parité, finalement, EOSCO-euro qui sécurise aussi tout ça. Et c'est quand même la première d'Europe dans le Pays Basque. On est hyper fiers. Dites-moi, Iban, est-ce que on fait un peu des économies aussi quand on utilise les EOSCO parce qu'on est dans ce circuit local, dans cette éthique aussi?
Alors, on est plus en accord avec nos valeurs que vraiment en recherche de gains économiques. Par contre, pour les professionnels du réseau, il faut savoir que l'utilisation de l'EOSCO numérique n'entraîne aucun frais, aucune commission. Donc, il faut juste être adhérent à l'association, mais après, quand il y a des transactions en numérique, à la différence d'une transaction en carte bleue sur laquelle il va y avoir des commissions, là, toutes les transactions en EOSCO numérique sont sans commission.
C'est ça. Et donc, il y a des équivalents d'EOSCO un peu partout en France, en plus?
Oui, il y a à peu près 80 monnaies locales à travers la France.
Bah voilà, c'est quand même super sympa. Alors vous avez un site internet, hein, c'est euscalmoneta.org, je l'ai bien dit?
Oui, c'est bien dit, oui. C'est là où on présente un petit peu les intérêts à utiliser la monnaie locale, comment ça fonctionne, et aussi c'est là où on peut ouvrir un compte et rejoindre l'association.
Ouais, avec un beau projet derrière, et j'avais envie de le mettre en avant. Nous avions envie, l'équipe de Paris City, les économies, de le mettre en avant, parce qu'il y a du sens et que l'argent a aussi ce sens-là, parfois, ces échanges. Merci, Iban Caricano, porte-parole de l'EOSCO, cette monnaie locale qu'on retrouve sur euscalmoneta.org. Sandrine Perrois, juriste pour l'association CLCV, Consommation, Logement et Cadre de Vie. Un petit quiz, le vrai faux, pour terminer cette émission et avoir les idées claires sur ce thème des frais bancaires. Alors, vrai ou faux, on peut négocier des frais ponctuels avec son banquier?
On peut, mais on n'est pas obligé de suivre.
On sent la juriste qui est en vous, on est d'accord. Bon, ok, c'est noté. Bon, moi, je vous le dis quand même, essayez, ça coûte rien. Vrai ou faux, les banques en ligne sont mieux placées sur les frais bancaires?
Elles sont plus compétitives, effectivement. Après, il faut faire attention à un certain nombre de points, être vigilant, effectivement, sur les conditions à respecter, notamment. Et il faut être adepte de ce mode de fonctionnement.
Oui, qui est un mode de fonctionnement, enfin, sans conseiller physique, sans banque physique, mais il y a quand même des conseillers et on est quand même accompagné.
Exactement. Ouais. Mais si vous appelez un conseiller, en fait, il peut y avoir des frais.
Ah ouais, alors là il faut... Ah d'accord, ok, c'est bien de le dire, effectivement. Toutes les banques sont alignées côté tarif, vrai ou faux?
C'est faux.
Ok. Changer de banque, ça coûte cher, vrai ou faux?
Pour les comptes courants, le compte de dépôt, c'est un service gratuit qui est mis en place, de service d'aide à la mobilité bancaire.
Voilà, et donc normalement, la nouvelle banque s'occupe de tout, les changements de RIB, tout ça, mais enfin, tout marche pas, quoi.
Alors, normalement, ça doit fonctionner, effectivement, et la clôture du compte courant est gratuite également.
Vrai ou faux, les packs de services sont toujours plus intéressants que de prendre à la carte?
C'est faux.
Ok, c'est noté, ça a le mérite d'être clair. Vrai ou faux, les virements instantanés sont toujours gratuits? On les payait cher, il n'y a pas si longtemps.
Alors, ils devaient être au même tarif que les virements classiques, en fait. Il se trouve que les virements en ligne sont souvent gratuits, donc par voie de conséquence, ils peuvent être gratuits, mais la règle, c'est qu'ils devaient être au même tarif que les virements classiques.
Et je termine pour reboucler la boucle. Vrai ou faux, quand on est dans une banque, on est aussi un consommateur, un client, et ça, il ne faut pas l'oublier.
Exactement.
Merci beaucoup en tout cas Sandrine Perrois, juriste pour l'association CLCV, donc Consommation, Logement et Cadre de Vie. Merci pour vos éclairages, hein, et puis j'espère que vous y voyez plus clair, vous qui nous avez écoutés sur votre radio locale ici. Alors pour écouter l'émission, la partager surtout avec vos proches, puis qu'ils fassent aussi des économies, c'est sur ici.fr. Et la semaine prochaine, bonne nouvelle, on va voir comment préparer un repas de Noël absolument magique, délicieux, mais à petit prix.